Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio Femme Plus, la radio où la différence nous rassemble. Dear Valid People, aujourd'hui nous allons continuer à parler du handicap, mais un peu différemment que les premières émissions où j'ai toujours invité des personnes concernées possédant eux-mêmes un handicap spécifique provenant d'une maladie spécifique. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre sur Dear Valid People, le chapitre de la santé. Il m'a paru totalement logique de commencer avec la médecine. Les médecins qu'on côtoie très régulièrement en situation de handicap, qui devient quelqu'un sur qui on s'appuie au quotidien pour réussir à garder ses capacités. Aujourd'hui, on va parler d'un médecin assez particulier que peu de monde connaît finalement, mais qui pour nous en situation de handicap et primordial, le médecin MPR. J'en perds ma voix. Aujourd'hui, je reçois le docteur Serge Bellassène. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Eh bien, samedi matin, écoutez, ça va très bien.
Super.
Et merci d'être aussi... là, en tout cas.
Mais avec plaisir, merci à vous d'être là. Et je reçois aussi avec plaisir le docteur Claire Palayer. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien également, je vous remercie.
Alors, vous êtes tous les deux médecins MPR. Qu'est-ce que c'est, le médecin MPR ?
Je vais peut-être vous laisser commencer, Serge.
Merci. Ouais. Médecin MPR, c'est un ancien médecin dit de rééducation. Et en fait, c'est une vraie spécialité, comme un chirurgien, comme un rhumatologue. Et ces études donc, durent après le passage de l'internat, 5 ans ou 4 ans. Comme
notre
spécialité. Et puis ça surtout, ça touche donc tout ce qui est fonctionnel, la rééducation fonctionnelle et tout ce qui est handicap, puisque MPR, ça veut dire médecine physique, donc tout ce qui est agent physique, et de réadaptation. Et la réadaptation, c'est tout ce qui entoure le handicap. Pour, en gros, le boulot, nous, c'est de donner au corps le plus de possibilités, puis il y a des moments où c'est... ou ses limites, donc du coup après c'est le réadapter pour qu'il arrive toujours à faire une fonction, c'est de vivre et de...
Et compenser éventuellement.
Et de compenser, voilà.
Je crois qu'il a... c'est une définition assez complète, donc voilà, par effectivement la compensation qu'on peut avoir, donner le maximum d'autonomie au patient avec ce handicap en fait.
Alors chacun, vous avez une certaine spécificité, docteur Bellassène, vous êtes médecin libéral. Docteur Palayer, vous êtes salarié au sein du Centre Neurologique Probara. Quelles sont les différences de travail entre un médecin libéral, un médecin dans un centre de rééducation ?
Alors, je pense qu'on va pouvoir évoquer un peu chacun ce qu'on fait.
Je vais vous laisser parler.
Je commence donc du coup. Sur la médecine physique et la réadaptation, effectivement, les médecins peuvent avoir des activités très variées. Ça peut être effectivement du libéral, et je laisserai le docteur Bellassène expliquer de manière plus approfondie ce que cela signifie. On peut également être en milieu hospitalier public hein, ou dans des centres privés en fonction pour encadrer les patients dans une prise en charge rééducative. La médecine physique et de réadaptation, c'est très très vaste. Donc ça va aller de la prise en charge en pédiatrie jusqu'à la gériatrie, en passant par les amputés, en passant par les patients avec un handicap neurologique. Bon, j'en passe, il y en a orthopédique, ça peut
rhumatologique,
même... Rhumatologique. C'est vraiment toutes les formes de handicap. Donc après, il va y avoir des centres qui vont être plus ou moins spécialisés. Dont certains vont avoir vraiment des spécificités. Donc, moi, je suis actuellement dans un centre spécialisé en neurologie qui s'occupe principalement, enfin, même actuellement, que de blessés médulaires, principalement. Donc, ça implique qu'on prend en charge les patients avec une lésion de la moelle épinière, de la prise en charge initiale à partir du moment où ils ont une lésion jusqu'à la prise en charge à long terme, en fait, avec les complications que cela peut impliquer.
J'insiste aussi pour dire qu'en fait, la médecine de rééducation, ça peut pas se faire seul parce que on connaît pas tout. Et que donc, on travaille avec des équipes. Et c'est un peu la richesse d'ailleurs de ce domaine, comme la gériatrie, comme toutes ces disciplines qu'on appelle transversales, puisqu'elles touchent toutes les spécialités, et puisqu'il y a des rééducateurs de tout. Donc nous, on forme des kinés, on forme des ergothérapeutes, on forme des psychomotriciens, on forme des thérapeutes physiques, puisque l'ostéopathie, la thérapie physique, ça rentre aussi dans le domaine de la médecine de rééducation, la médecine physique. Donc on est censé chapeauter un peu tout ça.
Et les infirmières, parce qu'elles ont également un rôle très important.
Les infirmières, les aides-soignantes, enfin, voilà, c'est une équipe. Nous, en fait, on coordonne des équipes. Et notre but, c'est en gros d'être le... Enfin, le, voilà, je ne sais pas si t'es là, vous êtes... On va se dire tu, puisque mon cher confrère. Mais en fait, on est là pour coordonner. Enfin, il y a plein de raisons d'avoir un médecin coordonnateur de rééducation. Il faut qu'il sache, il faut qu'il soit... médecin dans le sens comment dire émotionnel et pas émotionnel comment on dit psychologique, enfin voilà, n'importe qui peut pas parler de handicap à quelqu'un parce que c'est pas toujours facile, et puis surtout ça doit être le référent par rapport à une équipe puisque c'est lui qui va examiner le patient, donner des directives et puis établir un programme. Voilà, le plus important dans la rééducation, c'est le programme. C'est, on part de là et on fait des objectifs. Et là, on a toute une équipe qui est là pour travailler. Et puis, on revoit les gens régulièrement dans leur progression jusqu'à finaliser la chose. Voilà.
Ça, c'est effectivement sur tout ce qui est prise en charge rééducative initiale. On va être sur ce type de prise en charge. Et après, encore à terme, à long terme, nous, on intervient aussi dans le suivi des patients parce qu'un handicap, malheureusement, peut avoir des conséquences sur plus long terme que... au moment de la prise en charge rééducative initiale, donc il y a nécessité d'un suivi. Et là encore, on a des équipes qui nous entourent, et effectivement, sans elles, on n'est rien, en fait, hein, clairement.
Et d'ailleurs, on travaille avec toutes les institutions, Comet, notamment Propara, il y a tout le circuit avant et tout le circuit après, puisqu'après, il faut trouver du travail, il faut se loger. Voilà, donc je ne sais pas si vous travaillez avec l'APF, je ne sais pas.
Également. En fait, donc, à Propara, il y a le dispositif Comet, effectivement, qui aide à la réinsertion, et je crois que. Il y a pas mal de patients qui en profitent.
Ça me dit quelque chose.
Donc, ça permet effectivement d'être encadré et accompagné surtout dans la recherche d'un emploi avec un handicap, en partenariat avec la MDPH, effectivement, puisqu'il y a quand même cette dimension aussi au niveau de la MDPH. Mais donc, voilà, aider le patient vraiment de la gestion du handicap sur le plan médical jusqu'à son impact dans la vie personnelle et professionnelle à long terme, en fait.
Et il y a le relais aussi avant, c'est-à-dire que vous avez toute la médecine d'urgence, de réanimation, avec qui on travaille, et donc on est vraiment le responsable de ce qui va passer de l'aigu, pour discuter avec les médecins de l'aigu et discuter avec les familles. Voilà, c'est un métier dont je suis très fier, et qui n'est pas assez connu.
C'est vrai. En général, les patients, les personnes tout venant ne connaissent pas. Ont des a priori un petit peu et demandent à quoi on sert, effectivement. En fait, on a beaucoup, beaucoup de champs d'action possibles.
Oui, moi-même, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas du tout ce que c'est un médecin PR, et maintenant, je ne peux plus réellement bombasser. C'est un peu mon nouveau médecin traitant. Dans ma situation. Donc, vous avez dit que le médecin PR, il y a aussi un côté managérial au final, de coordination d'équipe. Dans un centre comme Repara, je suppose que cette équipe, elle est proche de vous. Tout le monde est là, les kinés, les ergos, les infirmières, les soignants, tout le monde au même endroit.
Oui.
Et en tant que médecin libéral, au final...
Ah, c'est beaucoup plus difficile.
Voilà, vous avez besoin d'un carnet d'adresses, de personnes de confiance, de partenaires avec qui vous vous comprenez, et qu'au final, il n'y a pas besoin que vous soyez présent, juste un compte-rendu suffit pour que vous compreniez.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, je dis ça parce que moi, je suis médecin de rééducation, mais un peu particulier par rapport à mes confrères, puisque j'utilise d'autres méthodes que celles classiques. Disons que, voilà, j'ai... Alors, aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai... Ça fait 15 ans que je travaille sur une méthode qui s'appelle l'OPMR, ostéo-posturo-médico-rééducative. Donc, c'est vraiment un ensemble de cordes à mon arc, et j'utilise en fonction de, comme je vous disais, un programme, des gens en qui j'ai entièrement confiance, dans un domaine que je ne maîtrise pas. Il y en a beaucoup.
D'accord.
C'est vrai qu'en fait, Avec le temps, au départ, on a une formation initiale qui est un peu commune, mais étant donné la diversité d'applications dans le champ de la médecine physique et de réadaptation, on est amené à se spécialiser et à approfondir certaines Absolument. Pathologies, parce qu'on ne peut pas aider le patient si on ne connaît quand même pas bien la problématique.
D'accord. Et vu que le médecin MPR n'est pas connu, au final, qu'est-ce qui vous a fait choisir MPR comme spécialité?
Ouf. Je commence.
Ah oui, je vous laisse commencer.
Alors, enfin voilà, moi je suis parisien au départ et je
C'est pas grave.
Je viens de la fac de Bobigny, qui à l'époque était la fac expérimentale, puisqu'elle faisait beaucoup de généralistes et très peu de spécialistes. Donc moi je faisais partie des gens qui passaient l'internat à l'époque et on était, je sais plus, 20 sur toute la promo à bosser l'internat. Et puis un jour je suis tombé amoureux de Montpellier. J'y suis allé en été, je suis revenu. Et puis après, j'y suis allé en hiver, et quand je suis revenu dans ma voiture, j'ai dit, c'est là que je veux vivre. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, je vais aller à Montpellier, je vais faire une spécialité. Donc, j'ai redoublé ma sixième année. J'ai eu la chance et le travail aussi d'avoir l'internat. Et du coup, je me suis retrouvé ici avec l'idée d'être gériatre. Je devais être un des premiers médecin à vouloir être gériatre, parce qu'à l'époque, la gériatrie, c'était vraiment le rebut de la médecine interne et on s'en occupait pas. Et puis, alors ça, c'est l'histoire personnelle. Et donc, j'ai rencontré Jacques Pélissier, qui était mon mentor, mon patron à l'époque. Et premier semestre d'internat, j'étais donc chez lui à Nîmes. Et comme c'est un monsieur très dynamique, j'ai appris ce que c'était que la médecine de rééducation. Et en partant, il voulait absolument que je fasse médecin. Je voulais être interniste, en fait. Interniste, c'est trouver les diagnostics, là, comme à la télé, comment il s'appelle?
Dr. House.
Voilà, comme un peu le Dr. House. Et je lui avais dit à l'époque, tu sais, Jacques, pour moi, la médecine de rééducation, c'est pas de la médecine, parce que le diagnostic, il est fait, donc ça m'intéresse pas. Et puis, je suis parti. Puis, après, j'ai fait de la médecine interne. Extraordinaire, sauf que ça demande beaucoup de travail, enfin, c'est un travail énorme. Et finalement, j'ai compris que la gériatrie, c'était et de la médecine interne et de la rééducation. Donc du coup, je suis retourné voir mon patron en disant, je veux faire de la gériatrie et je passerai par la rééducation. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je regrette pas du tout parce que, voilà, j'ai appris tellement de choses.
Ouais. Nous, les choses, elles ont un peu changé entre votre génération et la nôtre. Donc aujourd'hui, on est filiarisés, c'est-à-dire qu'à partir de la...
C'est pas si vieux que ça.
Il y a quand même quelques années. du coup, entre les différentes générations, il y a des choses qui ont évolué. Et l'année juste avant que je passe l'internat, le concours de l'internat, ils ont mis en place une filiarisation, c'est-à-dire qu'on passe le concours au bout de la sixième année, un concours national, et avec ce concours, vous êtes classé au niveau national et vous devez choisir une ville et quelle spécialité vous désirez choisir. Donc que ce soit une spécialité au sens comme on l'entend aujourd'hui, mais également la spécialité de médecine générale. Donc ça, c'est vraiment tout le champ.
C'est pas pareil.
Voilà. Donc on se retrouve à devoir choisir à un instant T quelle direction on donne à sa vie. Avec un droit au remords possible dans les deux premières années, mais voilà. Et donc, je me suis retrouvée à ce moment-là, trois semaines avant le choix définitif, à me dire, je ne sais pas, j'aime beaucoup de choses dans la médecine, je ne sais pas ce que je veux faire. Et ma mère, qui me connaît bien et qui est également médecin, je lui ai un petit peu mis ce que j'aimais vraiment dans la médecine, ce que j'aimais moins dans la médecine, et entre autres, ce que j'aimais vraiment, c'était, un, la prise en charge, pouvoir faire une prise en charge globale sur du long cours du patient, et le travail en équipe. Et elle m'a dit, mais pourquoi pas la MPR? Et là, j'ai fait, je ne connais pas.
Ouais.
J'étais à Marseille, mais je n'avais pas eu la chance de passer dans le service de médecine physique à l'époque. Et bien, j'ai fait, bon, est-ce que tu connais quelqu'un que je pourrais rencontrer pour en discuter? Donc, j'ai rencontré une des médecins qui travaille sur hier. Et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Et voilà, je me suis retrouvée à choisir MPR sans être passée vraiment en stage, parce que comme vous dites, mine de rien, même dans le milieu médical, c'est pas forcément bien connu, et pas que par les personnes tout venant. Voilà, j'ai fait ce choix, et comme le docteur Bellassène, c'est un choix que je regrette, mais pas du tout.
Et merci pour ces partages. Nous arrivons au moment de la pause musicale. Où aujourd'hui, sur Auditoris, vous serez accompagné du main theme du film Patch Adams, créé par Mark Sheman. À tout à l'heure, bonne écoute. Cher auditoriste, de retour sur Dear Valid People, toujours en compagnie du docteur Serge Badassen et du docteur Claire Palayé. Vous étiez en compagnie du main theme du film Patch Adams, créé par Mark Sheman. Donc pour la petite histoire, Patch Adams, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce médecin. Non. Dans les années 70, en fait, il a été le médecin plus ou moins précurseur pour la rigolothérapie. Donc, il a, dans, à l'époque des années 70, c'était une époque où les patients étaient pas réellement traités comme des êtres humains et qu'on les traitait pour des symptômes. Voilà, qu'on leur donnait presque un numéro.
Vous avez prêché un converti.
Et à cette époque, Patch Adams, encore en médecine, est arrivé à décider de faire les choses autrement, de parler aux patients, de les appeler par leur prénom, et ben, aussi de faire le clown avec les patients, notamment avec les enfants qui sont avec un cancer en phase terminale. Et il y a un film sur ce personnage avec Robin Williams. Donc déjà, Robin Williams... RIP
et à son âme.
Et ouais. Voilà, et merci pour ce qu'il a fait au cinéma.
Ce film est très bien dans mon souvenir.
Oui, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps et j'ai fait oui. Et justement, je voulais vous demander quel était votre point de vue sur la relation soignant-patient. C'est quelque chose qui est souvent mis à débat. Que je pense que dans les cours de médecine, on en parle, notamment déontologie. Et comment vous vous placez, vous, par rapport à la norme, en quelque part?
Vous allez commencer?
Comme vous le souhaitez. Alors, c'est un vaste sujet, la relation médecin-malade. C'est des choses où on est finalement peu formé pendant mes études, parce que c'est quelque chose de compliqué. Alors, de plus en plus, ils essayent de mettre en place des jeux de rôle à l'université pour essayer de faire en sorte que les jeunes médecins soient plus à l'aise, parce que mine de rien, c'est pas quelque chose d'inné, forcément. Ça dépend des personnes, mais ça peut être compliqué à aborder. Par rapport, alors après, il y a le domaine du handicap, il y a le domaine plus général des pathologies, avec l'annonce éventuellement de certaines pathologies. C'est quelque chose d'un peu, comment dire, Je pense que c'est déjà dépendant de chaque patient qu'on a en face. On n'a pas forcément la même relation avec tous les patients. On reste des personnes humaines avec une interaction qui dépend. C'est une relation, donc c'est pas dépendant juste du médecin. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, ça dépend aussi des circonstances. C'est toujours pareil. Bon, ça c'est pas. C'est peut-être une apalissade, mais il est vrai qu'en fonction de ce qu'on a abordé avec la personne, il faut avoir pouvoir, enfin, faut pouvoir créer un lien plus approfondi selon ce qu'on a à dire ou pas. S'il y a des choses, effectivement, un médecin généraliste qui voit une personne à un instant T sans de suivi nécessaire parce que bon, la personne elle a pas de problème particulier, ne va pas avoir la même relation qu'une personne qu'on voit de manière régulière dans son cabinet ou que nous, on suit de manière prolongée. J'ai des collègues qui suivent des patients depuis 30 ans, avec une relation qui peut pas forcément être la même qu'une personne que vous voyez à un instant T. C'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment dépendant de ça également. Parce qu'il y a des liens qui se créent, comme vous avez pu le créer avec éventuellement le docteur Bellassène ou avec moi-même. Voilà, il y a des choses où...
Donc, spoiler pour tous les auditoristes, ce sont mes médecins.
Il fallait peut-être pas le dire, zut.
Si, on peut très bien dire.
Mais,
il y a pas de souci.
Du coup, c'est vrai que ça dépend des... vraiment de la personne qu'on a en face de nous. Après, je ne sais pas ce que vous attendez en termes de réponse sur cette question. Est-ce que c'est difficile pour nous d'entrer en interaction avec la personne ou pas ? Est-ce que ça peut, selon la thématique abordée. Je crois que après, je vais laisser le docteur Bellassène poursuivre parce qu'il a peut-être d'autres choses à dire, mais... Moi, il m'est arrivé parfois de ne pas savoir comment aborder une thématique avec un patient et de, voilà, de me dire, bon, ben, sous quel angle je l'aborde pour pouvoir arriver à communiquer correctement et que la personne soit un peu en difficulté ou à la fois qu'elle puisse intégrer le message que j'ai à lui donner. Voilà. C'est toujours difficile, quoi. Et que je puisse l'écouter en retour et comprendre vraiment ce qu'elle ressent et pouvoir acheminer avec elle.
Merci, docteur Bellassène.
Déjà, ouais, c'est déjà assez complet. Après, je voudrais dire qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas médecin dans sa tête. Voilà. Donc, quand on fait ses études, si on fait des statistiques, on verra que 99% des gens qui sont rentrés en première année, ils sont à la fin, et puis ils ont leur diplôme, et puis après, voilà. Et là-dedans, vous avez des gens qui veulent faire de la chirurgie, d'autres qui veulent faire de la recherche. Donc, heureusement que la médecine est ouverte et que tous les médecins qui ne seraient pas... comment dire, moralement dans le truc, parce que la médecine c'est aussi un contact, c'est un soin, c'est tout ça, il y en a, bon ben voilà, il y a des grands chercheurs, c'est pas leur truc et heureusement ils font là-dedans. Si eux étaient à nos places, je pense que ça passerait pas parce que, voilà, donc il faut une certaine empathie, il faut... Alors moi je vous avoue que ma profession de médecin c'est tu donnes tout à ton patient, tout ce que tu connais, tu lui donnes. Et c'est pas toujours évident d'abord de faire confiance à son médecin. Donc voilà, il y a toute une relation. Ça se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes d'accord, non ?
Oui, tout à fait.
Voilà, mais par contre, c'est vrai que le médecin de rééducation, compte tenu qu'il y a du handicap, je veux dire, il faut forcément que psychologiquement, il y ait un certain contact. Sinon, alors moi, je vous avoue que je suis un peu, même trop, des fois, n'est-ce pas, Damien ? Que je tutoie, voilà, donc moi, des fois, je suis un peu trop. Mais globalement, je pense que c'est très, très important. La relation de confiance, ça, c'est le truc. Et puis, le contrat entre nous, c'est... voilà, après, voilà, y a plein d'autres choses.
Tout à fait, effectivement, il faut avoir quand même un certain abord psychologique, en fait, qui clairement. Est en médecine physique et de réadaptation. Même pour faire du management d'équipe, en fait, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas travailler avec des équipes et avec le patient si on n'a pas cet abord-là, je pense.
Absolument.
En médecine, il y a des gens très très bien, on n'est pas tous doués pour ça, clairement. Donc il y a des gens très très bien qui, effectivement, vont s'orienter sur d'autres spécialités qui nécessitent moins cet abord. Ça, je pense que c'est dépendant de chacun, effectivement, du profil. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai choisi médecine physique parce que c'était quelque chose qui me plaisait.
Alors, vous savez qu'à mon époque, alors je sais pas si, mais à mon époque c'était l'internat, c'est-à-dire il y avait des villes, et puis pareil, il y avait un classement, sauf que les derniers c'était psychiatrie. Donc vous avez des psychiatres qui voulaient être chirurgiens. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça a pu donner. Enfin voilà, c'est le problème du classement, c'est que quand on est médecin, on fait pas toujours ce qu'on veut faire, mais heureusement aujourd'hui. J'espère que c'est pas pareil.
Il reste un classement, donc il y a toujours malheureusement des derniers au niveau du classement qui parfois ne peuvent pas choisir ce qu'ils désirent, mais en tout cas, voilà, cet abord psychologique en médecine physique, il est capital. On est tous d'accord là-dessus, et savoir potentialiser à la fois ce que peut faire le patient et potentialiser ce que peuvent faire les équipes autour du patient, c'est voilà, capital. Parce que quoi.
Il y a le côté progrès, il y a le côté annonce du handicap, notamment à Propara, quand voilà, il y a le refus. Enfin, je veux dire, le patient, il passe par différentes phases qu'on doit connaître, parce que sinon, ça ne va pas. On sait qu'au début, il y a le refus, le déni, la colère, enfin voilà, il y a plusieurs phases. Et heureusement qu'il y a des médecins qui sont adaptés à ça, parce que là aussi, hein, le médecin qui vous promet que dans 6 mois, vous allez vous relever et tout, alors que c'est pas vrai. Et voilà, enfin, c'est très compliqué, hein, honnêtement, c'est pas simple. Je crois qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place du patient. Et là, déjà, vous voyez les choses autrement et ça vous fait changer.
Je pense qu'en tant que patient, c'est pas mal d'essayer de mettre à la place du médecin aussi, de temps en temps, parce que finalement, c'est un travail de coopération.
Exactement.
S'il n'y a pas le médecin, s'il n'y a pas le patient, il n'y a rien qui se passe. Et vous avez parlé, notamment durant les études, il y a très peu de choses qui sont dites, quelques jeux de rôle. Et moi, en début d'année, j'ai participé à un ciné-débat à la fac de médecine, où ils ont diffusé le film De Rouille et d'Os avec Marion Cotillard. Et à la suite de ça, on a pu discuter avec beaucoup d'étudiants. En fac de médecine, et notamment un ancien médecin, des personnes dans des associations, et notamment une étudiante qui disait que pour elle, par rapport au handicap, c'était plus facile quand elle était en stage et quand elle portait sa blouse, finalement. Est-ce que vous aussi, en tant que médecin, vous ressentez ce pouvoir de la blouse, finalement?
Est-ce que c'est un pouvoir? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt ce qui permet de mettre une distance quelque part pour pas que ça nous affecte trop non plus. Je pense que c'est plus dans cette dimension-là qu'elle voulait. C'est pas un pouvoir, la blouse. C'est plus pas une barrière, mais voilà, une distance qu'on peut mettre pour nous aider à prendre en charge correctement aussi. Parce que si on était trop dans l'empathie et qu'on on finit par plus être à même d'aider nos patients.
Et éventuellement de se faire bouffer, ça s'appelle.
Oui, et qu'après ce soit nous qui empathisons et que le burn-out, ça reste quelque chose qui gâte les médecins. Donc, parce que le burn-out étant une pathologie un peu du don, les médecins, on a tendance quand même. Enfin, si on a choisi médecine en général, c'est pas pour. Enfin, ça dépend, il y en a qui l'ont choisi parfois pour l'argent, mais ça c'est. En médecine physique, en tout cas, la plupart des gens, c'est pas pour ça. Du coup, voilà, il reste.
Et d'ailleurs, pour revenir au libéral, faire de la médecine de rééducation avec une équipe en libéral, mais honnêtement, c'est très difficile. Enfin, moi, j'ai pas gagné ma vie, mais c'était pas le but, mais c'est surtout par rapport aux patients, quoi. C'est-à-dire que moi, je les envoie dans un circuit où ça va durer 6 mois, 1 an et demi, avec 5-6 personnes à les voir régulièrement. C'est difficile. Cela dit, quand ils viennent, c'est qu'ils sont en bout de course, parce qu'ils ont déjà vu tout le monde. Et donc, ils acceptent, voilà, c'est un contrat entre nous, mais des fois, moi, je passe une énergie dingue pour que finalement, au bout de 2 séances d'ostéopathie, je ne revois plus les gens et ça m'énerve. Parce que ça me fait. Enfin, voilà, c'était un peu le. Par rapport au libéral, c'était surtout ça. Et en fait, en libéral, vous avez surtout des médecins de rééducation qui font de la rhumato. Enfin, il n'y a pas beaucoup qui font des suivis de neuro, des fauteuils roulants, enfin voilà, tout ce qui est handicap. En ville, il y a beaucoup de choses à monter, comme en maison de retraite, quoi, dans les EHPAD. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon petit quartier, là, mais d'aller, en gros, dans une EHPAD avec des indications, faire des infiltrations, des choses comme ça, je vous assure que ça pourrait faire avancer beaucoup les choses.
Bon. Et pour continuer sur ce thème de la relation soignant-patient et de ce ciné-débat, j'ai pu aussi discuter avec un ancien médecin qui disait que la meilleure information donnée par un patient pouvait être une information donnée sur le pas de la porte, en fait, au moment où le médecin est prêt à s'en aller et qui dit un petit détail. Tout après une conversation de 10-15 minutes. Et la confiance est là, finalement, il lâche ce petit détail qui change tout.
J'en ai plein des histoires comme ça. Il faut écouter le patient, souvent c'est lui qui vous donne le diagnostic, alors que vous êtes passé à côté. Enfin voilà, si, c'est
ça. On a mené un interrogatoire complet, et en fait, il manquait la question. Ça, on est formé à l'interrogatoire, hein. C'est quelque chose où, voilà, pendant nos études, on nous forme à ça. Mais par contre, effectivement, après en pratique, on s'adapte au patient en face, encore une fois, et effectivement, il faut qu'il y ait ce climat de confiance pour pouvoir parfois avoir le petit détail qui manquait et qui permet de résoudre le problème, quoi.
Je peux rajouter un truc qui me passe par la tête parce que ça me paraît important.
Mais bien sûr.
En fait, en gros, le corps humain, ça fonctionne d'une certaine manière. Il y a l'organique, donc vous avez les os, les muscles, les lésions, les maladies. Vous avez le fonctionnel qui est un système, enfin voilà, une fonction, et quand la fonction est dépassée, ça fait des problèmes. Et puis après, vous avez le viscéral, donc tout ce que vous avez à l'intérieur bah, qui est accroché, donc il y a de la mécanique. Et puis, le dernier truc est le psycho-émotionnel, qu'à partir du moment où vous avez quelque chose, il est plus ou moins modulé par plein de trucs. Or, la plupart des médecins pensent que fonctionnel et psycho-émotionnel, c'est le même truc. Donc c'est vrai que, enfin, c'est un peu ça que moi j'essaye de promouvoir, c'est qu'on ait des fonctions, et quand ces fonctions sont dépassées, ça donne des problèmes et des signes. C'est ces signes qu'on essaye de traiter en rééduquant les fonctions. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la rééducation des yeux, personne ne connaît. La rééducation de la langue, personne ne connaît. Les semelles, tout le monde met des trucs n'importe où. Enfin, voilà, donc moi je suis dans ce monde-là, je vous avoue que ça me passionne. La mâchoire, enfin, vous en êtes un bon exemple, hein, Damien, clairement, puisque quand je vous ai connu, je ne comprenais rien à ce que vous disiez. Donc voilà, c'était important de le souligner, parce qu'encore une fois, fonctionnel, c'est fonctionnel. Ça veut dire que ce n'est pas organique, mais que ce n'est pas psychologique. Et ça, il faut vraiment faire la différence.
Qu'en pensez-vous, docteur Palaye?
Je suis d'accord avec ça. Effectivement, il y a des moments où ça peut être intriqué. Il faut savoir faire la différence aussi quand ça ne l'est pas. Et c'est tout le jeu du diagnostic. Tout le jeu du diagnostic.
Parce qu'on nous a appris l'organique en médecine. Moi, on m'a appris, voilà, j'ai fait mes études. Alors, j'ai été à l'hôpital 15 ans, des diplômes, des DEA, mais finalement, on nous apprend l'organique. Et quand il n'y en a pas, dans mes études, hein, quand vous regarderez toutes les questions d'internat, bah, une fois que vous avez éliminé ça, vous marquez fonctionnel. Donc, d'un air de dire, prenez un anti quelque chose, de toute façon, ce n'est pas de l'organique. Et c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est ça qui est grave, parce que 95% des pathologies, c'est du fonctionnel. Donc, c'est pour ça que notre médecine doit être absolument développée.
Eh bien, merci docteur pour ces partages, et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés à Dear Valley People. On va finir sur une dernière question. Est-ce que le médecin PR, c'est uniquement pour des personnes ayant des handicaps, ayant des problèmes de santé lourds, ou est-ce qu'à un moment dans sa vie, ça peut être toujours bon de fréquenter un médecin PR?
Alors, la médecine physique d'adaptation, encore une fois, elle couvre tellement de champs que vous pouvez être amené à avoir un médecin MPR pour une entorse. C'est possible. Donc, en fait, on couvre les handicaps, quels qu'ils soient, transitoires ou définitifs. Enfin, très fréquemment, c'est possible d'avoir un recours à un médecin de médecine physique. Je vois les partenariats avec lesquels on a avec la médecine du sport en particulier, sur des douleurs lombaires. Il y a tellement de champs où on est présent que c'est très fréquent quand même que les gens finissent par avoir recours à nous. Et la rééducation, je pense qu'on passe tous quasiment par un processus de rééducation dans sa vie. Alors après, il y en a qui se font en libéral, effectivement, et où parfois ça passe par le médecin traitant ou par des spécialistes autres. Mais je pense que souvent, en tout cas, les gens sont confrontés au bout d'un moment à cette spécialité.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que encore une fois, comme nous, on travaille avec les équipes, enfin voilà, moi je fais des cours à l'école d'ergo, je fais des cours à l'école de kiné. Dans ma formation, j'ai appris ce que connaissent la plupart des kinés, des ostéos, tout ça. Et d'ailleurs, heureusement, c'est grâce à eux que je sais ce que je sais aujourd'hui, parce que j'ai appris plein de choses d'eux et que je ne savais pas et qu'aujourd'hui je l'affirme. Mais bon, ça c'est. Ce que je veux vous dire, c'est que le meilleur interlocuteur entre le médecin et son kiné, eh ben, c'est le médecin de rééducation, parce qu'il sait de quoi il parle déjà et qu'il donne c'est le seul à pouvoir donner des directives à des gens de rééducation, puisque vous savez que maintenant les kinés ostéos ont leur liberté pour faire des choses. Mais voilà, je veux dire, et je pense que c'est très 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 important de souligner.
Il y a parfois
souligner
des contre-indications voilà, qui sont pas suffisamment soulevées. Voilà,
Vous pouvez vous raconter des tonnes d'histoires de gens qui tournent depuis des années, et puis finalement vous trouvez de l'organique. Syndrome du nerf thoracique, là, pour un gosse, ça faisait des années qu'il tournait entre le kiné, l'ostéo, voilà. Et finalement, sans vouloir nous vanter, on est vraiment l'interface entre la médecine et la chirurgie et tout ça, et le monde de la rééducation, qui sont deux mondes, mais totalement différents. C'est pas la même chose.
C'est vrai qu'en fonction de ce qu'on fait en médecine physique et d'adaptation, comme le docteur Balassène, il y a des moments où on peut être confronté, et je pense que vous l'êtes beaucoup plus en libéral que nous sur des univers hospitaliers, quoique ça dépend si on prend le CHU par exemple, qui sont confrontés régulièrement, sur des petits diagnostics, mais qui sont très très poussés, si vous voulez, sur de l'anatomique précis en fait. Parce que nous, ça nécessite qu'on ait une très bonne connaissance de l'anatomie de manière générale pour prendre en charge les patients.
Et la physiologie.
Et la physiologie, tout à fait. Et c'est vrai que c'est des choses, dans beaucoup de spécialités, on peut passer à côté de ça parce que finalement, on n'est plus là-dedans. Je me suis retrouvée une fois en médecine interne à faire un diagnostic sur un patient qui était purement du mécanique pur, mais que, en fait, c'est quelque chose de tellement peu fréquent que si vous connaissez pas la natte, vous pouvez pas faire le diagnostic, en fait. Enfin, si vous avez pas une réflexion fonctionnelle derrière, comme il disait tout à l'heure, c'est difficile de poser le diagnostic.
Eh bien, merci docteur Balassène pour votre participation, et merci au docteur Palaillé aussi. C'était Dear Valley People. Chers auditeurs, j'espère que maintenant vous savez ce que c'est un médecin père et que vous n'hésiterez pas à aller en voir un quand le moment sera venu.
On va faire de la publicité. Je vous assure.
En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Radio FM+. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Posez vos questions, je me ferai un plaisir de répondre. Au revoir. Retrouvez Dear Valley People tous les jeudis à 12h10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.